RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous écoutez RCF, c'est l'heure des 18-19 en région et nous retrouvons Jean-Pierre Benoît.
Bonsoir à tous pour ce magazine régional de 18-19 en Champagne-Ardenne avec nos amis de RCF Cœur de Champagne et puis bien sûr RCF Reims-Ardenne. On retrouve bien sûr les chroniques du mercredi. On va d'abord le saluer. Il est avec nous, il est dans ce studio. Robert Auverger, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît.
Alors on va évoquer dans quelques minutes, on va évoquer un mot puisque toutes les semaines votre chronique s'appelle En un mot et le mot d'aujourd'hui c'est
humanitaire.
Humanitaire, on va tourner autour de ce mot, on vous retrouve dans une poignée de secondes. Dans l'actualité, on reviendra avec nos maires, puisque vous savez que tous les jours à 18h20, on revient sur un maire qui nous parle de sa commune. Et aujourd'hui, nous allons dans les crêtes préardennaises. Vous connaissez Robert, les crêtes préardennaises?
Un petit peu, oui.
Du côté
oui, oui.
De, c'est formidable, du côté
j'apprécie,
de
d'ailleurs.
L'Aunois-sur-Vence, des relais de poste de l'Aunois, Gendin. Eh bien aujourd'hui, on s'arrête à Gendin. C'est l'ancienne route de Paris, comme on l'appelait, qui joignait donc Charleville à l'époque, à Paris. Et on passait par la vieille route de Prix. Et dans cette route de Prix, eh bien, il y avait Gendin, l'Aunois, et on rejoignait ce qu'on appelle aujourd'hui Voynich, mais bien sûr, ça n'existait pas. Alors, votre maire nous parle tout à l'heure, c'est François Garcia, maire de Gendin, dans les Ardennes, une superbe commune, dans les crêtes préardennaises. À 18h30, on retrouvera Alexis Claudretz avec le journal régional, comme tous les soirs. Et puis ensuite, nous partirons à Jean 23 à Reims, puisque Marc Besancenet, le directeur du lycée Jean 23, était en direct notre invité ce matin. Et nous le retrouvons ce soir, il sera question bien sûr d'un forum, le forum post-bac. Et nous reviendrons aussi sur l'opération qu'on a intitulée Kilimandjaro. Il nous en parlera dans une poignée de secondes. Et puis d'autres invités, on y reviendra aux alentours de 18h30. Tout de suite, sans plus attendre, chronique du mercredi avec nous Robert Auverger. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on va vous redire bonsoir.
Eh bien je vous redis bonsoir Jean-Pierre.
Alors en un mot, aujourd'hui, le mot de ce soir, humanitaire, est hélas de plus en plus souvent employé.
Hélas.
Nous allons donc voir ce qu'il signifie vraiment et pourquoi, hélas, vous venez de le dire, il est si souvent et de plus en plus souvent d'actualité.
Eh bien, lorsque se produit un désastre, une catastrophe, soit naturelle, soit par exemple, comme par exemple un tsunami, une tornade ou des inondations, soit provoquée par les hommes, comme la situation dans la bande de Gaza, en Ukraine ou ailleurs, les pays épargnés ont une réaction indispensable. Ils apportent leur aide à ceux qui sont frappés. Cette aide est qualifiée d'humanitaire.
Alors, ce qui paraît évident, puisque ce sont des êtres humains qui sont frappés. Alors, quelle est la racine de ce mot, en fait, humanitaire?
Parmi les dérivés latins de homo, humanus, humain, est très ancien. Alors, homo vient de l'humus, la terre, car, lit-on dans la Genèse, nous avons été créés dans de la glaise, de l'humus, où nous retournerons.
Parmi les autres mots de la même famille, on trouve le mot humanisme, le mot humaniste. Alors, sait-on quand ces mots sont apparus?
Oui, ils sont apparus au XVIe siècle.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un humaniste?
Vaste programme, c'est tout simplement, peut-on dire, quelqu'un qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs.
Alors, venons-en à notre mot du jour, humanitaire. Quand ce mot est-il apparu? Parce qu'il était apparu un peu plus tard.
Tout à fait. Le mot humanitaire apparaît avec le romantisme dans la première moitié du XIXe siècle.
Alors, y aurait-il donc un lien entre l'apparition du romantisme et celle du mot humanitaire?
Oui. Le romantisme, qui, vous le savez, en réaction contre la régularité classique et le rationalisme du siècle précédent, est un courant littéraire dont les thèmes essentiels sont la nature, le rêve, l'expression des sentiments personnels. C'est pourquoi on n'est pas du tout étonné de le lire sous la plume du généreux Lamartine. Une précision encore, tous les mots que nous avons cités auparavant faisaient référence à une conception abstraite des sociétés humaines. Ainsi, seuls les sentiments, les idées générales étaient appelés humanitaires.
Et ce qui équivalait donc alors au qualificatif philanthropique d'aujourd'hui,
exactement,
d'une certaine façon.
Exactement, un mot qui sous-entend que l'on parle uniquement d'amitié et non d'amour pour l'être humain. Par parenthèse, il existait si vous me permettez de faire une parenthèse, quatre sortes d'amour chez les Grecs, selon qui, selon par exemple qui on aimait et comment on l'aimait. Alors il y avait Eros, bien sûr, l'amour charnel qui n'exclut pas le romantisme. Il y avait Philia, la racine de philanthropie, l'amour amical. Il y avait Storgé, l'amour familial, et Agapé, les agapes, un repas amical pris en commun chez les premiers chrétiens.
L'adjectif humanitaire nous a donc fait passer des bons sentiments, de la philanthropie à l'action efficace, du théorique au pratique en quelque sorte.
Tout à fait, et cela depuis d'ailleurs une bonne cinquantaine d'années.
Alors est-ce que l'action humanitaire a existé avant d'être nommée et appliquée?
Oui, mais jusque dans les années 50, elle restait exceptionnelle et très limitée. Cela dit, au milieu du 19e siècle, avait été créée par exemple la Croix-Rouge.
Alors vous pouvez nous dire quelques mots de son histoire d'ailleurs, ce qui nous éclairera sûrement sur l'actualité.
Oui, elle est créée par Henri Dunant, qui est un citoyen suisse, qui est témoin de la bataille de Solferino en 1859.
Deux mots sur cette bataille, Robert Auverger.
La bataille de Solferino, c'est en Lombardie, voit la victoire des armées de Napoléon III et des armées sardes sur l'armée autrichienne de l'empereur François-Joseph.
Quelle est la réaction d'Henri Dunant, alors, justement?
Eh bien, il est profondément choqué. Il a alors l'idée d'improviser des secours avec l'aide des populations civiles locales. Ce qui est alors nouveau, c'est son impartialité. Il ne fait aucune distinction de nationalité, de religion, de conditions sociales ou d'appartenance politique ou militaire.
Alors sa seule préoccupation, Robert Auverger, est donc humanitaire, celle de secourir les humains à la mesure de leurs souffrances.
Voilà qui est parfaitement résumé, mon cher Jean-Pierre. Cette aide humanitaire apportée aux soldats des deux camps est l'acte fondateur de la Croix-Rouge qui inspirera ensuite de nombreuses ONG humanitaires.
Alors en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Robert Auverger?
Eh bien, je peux vous dire que le mot humanitaire désigne de plus en plus des organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, des actions collectives de sauvetage qui, notamment grâce au convoi et lorsqu'on dispose de couloirs humanitaires et grâce aux soins médicaux et à la fourniture d'aliments, a le mérite de concrétiser une solidarité apportée par des êtres humains à d'autres êtres humains victimes de souffrances inhumaines. L'actualité nous le rappelle, hélas, chaque jour.
Alors quand vous êtes là le mercredi, aujourd'hui mercredi 8 novembre, on pense déjà au mercredi 15 novembre. La semaine prochaine, quels mots vous allez utiliser, nous expliquer?
Eh bien, si vous voulez, en ligne directe de notre mot d'aujourd'hui, un mot me semble s'imposer, solidarité.
Merci Robert Auverger d'avoir été avec nous. Et à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
C'est vrai que souvent on retrouve la météo en fin d'édition ou dans le cadre du journal, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui va se passer demain. Des températures de 9 à 11 degrés, 9 pour les matinales, 11 pour l'après-midi, 12 dans le département de la Marne, plutôt 11 dans le département des Ardennes, encore très changeant, quelques éclaircies, mais encore pas mal de pluie. Eh bien, de la pluie, il va y en avoir aujourd'hui aussi, mais du soleil aussi, sur les crêtes préardennaises. Car vous nous l'avez dit, Robert Auverger, puisqu'il est toujours avec nous, c'est vrai que vous connaissez un peu, vous allez souvent d'ailleurs en Belgique.
Hein, je vais souvent à Bouillon.
Vous utilisez la 34, donc exactement sur la gauche, en prenant la direction de Faisceau et de Neuvisy, vous pouvez regagner l'Aunois, et puis un petit peu plus loin, la commune de Gendin, une très belle commune, qui est sur l'ancienne route de Paris, et qu'on empruntait beaucoup dans les pèlerinages que nous faisions autrefois à Neuvisy, entre Charleville-Mézières et Neuvisy.
Eh bien, la prochaine fois que j'irai à Bouillon, je ferai un petit détour.
Alors, vous ferez un petit détour et vous rencontrerez sans doute le maire de Gendin, qui n'est autre que François Garcia, qui est avec nous aujourd'hui. François Garcia, bonjour, bonjour monsieur le maire.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on connaît bien Gendin dans notre région, les Rémois peut-être un peu moins, c'est à côté de l'Aunois, c'est pas très loin de Charleville. Vous allez nous présenter un petit peu la commune et vous-même. Alors Gendin, comment peut-on présenter? Combien y a-t-il à peu près d'habitants à Gendin, François Garcia?
Eh bien écoutez Jean-Pierre, Gendin c'est aujourd'hui un petit peu plus de 300 habitants, hein, une population dans les Ardennes qui augmente tout doucement. Voilà.
Et cette population, elle est composée d'agriculteurs, il y a des retraités, il y a quelques jeunes aussi qui s'installent, parce que c'est une très très belle commune, on n'est pas très loin de Charleville, il y a des prix quand même très attractifs.
Bah, disons qu'on est dans les crêtes ardennaises, hein, au cœur du département des Ardennes, avec une proximité, vais-je dire, qui nous avantage, c'est celle de l'autoroute, hein, qui relie Charleville et Reims, et qui fait que c'est vrai que Jandin devient de plus en plus attractif pour les jeunes qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent sur Reims, sur Charleville, voire même plus loin. Et puis, on a à Poitéron également une desserte ferroviaire qui a ouvert, ce qui nous aide aussi à maintenir, on va dire, ou développer la population, parce que contrairement à une grande partie des Ardennes qui malheureusement se dépeuplent, hein, notre secteur des crêtes ardennaises, c'est plutôt une population jeune qui augmente.
Pour avoir un peu connu le village et la région il y a quelques années, quelle transformation ! On est passé à un village où il y avait, c'était quand même un peu vraiment la campagne au sens large. Et là, c'est toujours la campagne, mais embellie, avec des fleurs, avec des aménagements. Ce sont des très très beaux villages maintenant.
Eh bien, écoutez, je vous remercie du qualificatif. Hein. Disons qu'on travaille ça aussi avec la population. Jandin, aujourd'hui, on a deux fleurs. Hein. On a réussi en deux pas et on développe donc tout ce qui est fleurs et aménagements paysagers dans notre secteur, dans les crêtes ardennaises. On est aussi aidé par, le patrimoine naturel des Ardennes dans notre secteur. Hein. C'est très herbagé, donc on a conservé un bon patrimoine à la fois forestier ou assez bucolique avec des haies, avec des animaux. Enfin, voilà, donc on n'est pas dans la culture intensive, si vous voulez. Ça nous avantage.
François Garcia, vous êtes maire depuis vous-même combien d'années à Jandin ?
Eh bien écoutez, là je fais mon deuxième mandat de maire. J'aurai 12 ans de mandat de maire à la fin de celui-ci. Et puis c'est mon cinquième mandat d'élu. J'ai démarré modestement par les voies naturelles, on va dire, en passant de conseiller à adjoint et puis maintenant maire.
Alors il faut dire aussi que ce qui a changé, c'est qu'il y a les communes, mais il y a aussi l'intercommunalité. Quand même, le maire reste un peu, entre guillemets, un peu le patron quand même chez lui. On connaît le maire, on lui pose beaucoup de questions, on le rencontre dans le village.
Bah écoutez, oui, le maire, en fait, moi je dis souvent, c'est une charge. Hein, c'est pas, quand on est maire, c'est une charge, c'est-à-dire qu'on est au centre de la vie municipale, on est au centre des besoins de la population, qui sont complètement divers, et puis modestement, on représente aussi notre commune dans la collectivité des crêtes ardennaises, puisque là, c'est l'intercommunalité, c'est les crêtes ardennaises.
Alors, est-ce que il y a des projets qui se terminent à Jandin ? Il y en a peut-être un ou deux qui se profilent, hein, plus ou moins long terme. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qui peut se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années ?
Bah écoutez, on anticipe toujours. Hein, un maire, c'est quelqu'un qui vit toujours, on va dire, le lendemain ou l'après-demain, parce que c'est vrai que, bon, d'abord, des projets en mairie, ce sont des projets de longue haleine en général, qui s'étalent sur plusieurs années. Bon, ça se fait pas en claquant des doigts. Nous, actuellement, donc, on termine un projet de sentier de découverte archéologique et historique dans le village, hein, qui nous permet de... Moi, ça me permet, si vous voulez, de faire découvrir à la population du village, mais aussi aux environs, l'histoire secrète du village, quoi, depuis les Romains.
Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans cette terre-là. Justement, c'est une terre aussi de passage. C'est une terre où, vraiment, on retrouve des vestiges, certainement, de l'époque romaine.
Ah ben absolument, absolument. Jandin, si vous voulez, le nom de Jandin vient de Dain. Dain, c'est un nom gaulois, hein, comme Verdun ou Gotha. Ça signifie citadelle ou château. Et Jean, a priori, viendrait du dieu Janus, hein, le dieu aux deux visages romain. Donc, on est sur l'axe de la voie romaine qui va sur Cologne. Hein.
Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, j'enfonce une porte ouverte, François oui. Garcia, c'est qu'au fond, les autoroutes d'aujourd'hui, qu'on connaît bien, la 34 qui passe à côté de Voynic, elle emprunte d'une certaine façon, enfin à quelques centaines de mètres près, elle emprunte les voies de communication que les Romains avaient trouvées, comme s'il y avait des endroits où il fallait communiquer, où il fallait passer, quoi.
Exactement, exactement. C'est la quadrature du cercle, hein, où les hommes se retrouvent à travers le voyage. Là, on est à travers un voyage sur une route, mais c'est aussi un voyage dans le temps, où tout se croise. Même avant les Romains, je pense que les Gaulois traçaient déjà des routes vers l'Allemagne ou vers aujourd'hui la Belgique.
Alors François Garcia, c'est vrai que c'est vraiment une charge, c'est vrai. Il y a même des jeunes mères qui veulent pas y aller. Il y en a qui sont fatigués parce que il y a quand même une responsabilité. On vous interpelle. Quand ça va pas, parfois il y en a même qui vous prennent à partie, mais gentiment, mais enfin, bon. Et puis il y en a qui vous félicitent hein, aussi.
Oui, je dirais qu'un maire, c'est d'abord quelqu'un qui rassemble. Hein, c'est pas quelqu'un qui divise. Hein, alors, c'est toujours plus difficile de rassembler les gens que de les diviser, parce qu'à un moment, il faut avoir de l'empathie, si vous voulez, vis-à-vis de ses concitoyens, les écouter et essayer de trouver le sens, on va dire, le sens commun de leurs demandes, c'est-à-dire... Bien sûr, on part de problèmes qui sont généralement des problèmes très concrets et très particuliers, et il faut naturellement en ressortir à travers quelque chose de positif lié à l'intérêt général. C'est pas toujours simple, c'est vrai.
Alors, conjuguer aussi pour certaines personnes la vie professionnelle, la vie familiale, la responsabilité de mère, c'est pas toujours simple non plus pour certains.
C'est surtout pour mon épouse. Hein. Bon, un maire, c'est quelqu'un qui vit aussi. Plusieurs vies professionnelles en une. Hein. Comme je vous disais, c'est une charge. Et quand on travaille, il faut savoir aussi se rendre disponible. Ce qui n'est pas toujours simple, hein, d'ailleurs, se rendre disponible pour le soir, participer à des réunions et faire avancer des dossiers.
Alors, évidemment, c'est une question que l'on pose à chaque fois, à chaque maire, dans chacune de ces émissions. Êtes-vous finalement, malgré tout ça, malgré les difficultés, la charge? Est-ce que vous êtes un maire heureux au cœur de ces belles Ardennes?
Moi, je pense que heureux, oui, disons que il y a des hauts et des bas, hein, c'est comme dans tout, hein, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais globalement, c'est pour être maire, je pense qu'il faut avoir une prédisposition à vivre, à aimer vivre avec les autres. Hein, donc, c'est pas simplement une fonction qui vous lie sur un mandat, mais c'est aussi une façon de voir la vie. Donc, on est prédisposé, je pense, moi je le vois comme ça, on est prédisposé au départ pour l'être, ou effectivement on se force à l'être et on ne l'est pas, et là c'est pas simple, c'est vrai.
Merci François Garcia d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut d'ores et déjà dire que demain, à midi, nous retrouverons dans l'émission « Votre maire nous parle » Jacqueline Lopata, elle est maire de Mont-sur-Courville dans le département de la Marne. Et on aura l'occasion toute cette semaine de retrouver d'autres maires. Je peux vous signaler d'ailleurs le vendredi, ce sera Christophe Blot de Montigny. Enfin, on aura l'occasion de voir tout cela dans quelques instants. Pour l'instant, on s'approche de 18h30, l'heure du journal régional, avec Alexis Claudretz qui est avec nous, et on se retrouve tout de suite après.
Bonjour à toutes et à tous, les titres de ce mercredi 8 novembre. L'Institut national de la statistique et des études économiques vient de publier un panorama de la pauvreté dans le Grand Est. En 2020, 339 000 ménages se situant sous le seuil de pauvreté, soit 14,5% de la population régionale. Décryptage. Solidarité paysan Marne-Ardenne revient avec un nouveau spectacle à destination des agriculteurs, mais pas que, ce dimanche à Rethel. Présentation de la pièce « J'ai mangé du Jacques ».
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
L'Institut catholique de Paris, campus de Reims, fait sa rentrée solennelle ce mercredi soir. Les festivités viennent de commencer il y a quelques minutes. À cette occasion, M. Dany Sandron, professeur à l'université Paris-Sorbonne, interviendra sur le thème « Reims, un foyer artistique majeur au XIIe et XIIIe siècle ». M. Patrick Demouy, professeur émérite des universités en histoire médiévale, que l'on connaît bien sur l'antenne de RCF évidemment, et Mme Cécile Coulangeon, doyenne de la faculté de lettres de l'ICP, présente présenteront quant à eux les projets de recherche du campus de Reims. L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de publier un panorama de la pauvreté dans le Grand Est. S'appuyant sur des données de 2020, ils se sont intéressés au niveau de vie des habitants en fonction de leur lieu d'habitation et de leur situation familiale, notamment un rapport qui servira de base pour la mise en place du pacte de solidarité 2023-2027 présenté par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Alors, qui est concerné par la pauvreté dans le Grand Est? Réponse avec Vivien M, directeur adjoint de l'INSEE Grand Est.
En deçà du seuil de pauvreté en 2020, qui est de 1120 euros pour une personne seule, et on constate que dans le Grand Est, il y a 14,5% de la population qui sont dans cette situation. La pauvreté touche les territoires de façon assez disparate. On constate que notamment dans les territoires urbains, les taux sont plus élevés, supérieurs en moyenne régionale à 20%. En revanche, les territoires ruraux sont un petit peu moins concernés, notamment le territoire qu'on appelle rural périurbain, c'est-à-dire le territoire assez proche des villes où les actifs vont travailler dans les villes et pour lesquels le taux de pauvreté est en deçà des 10% en moyenne régionale.
Dans le Grand Est, près d'une personne sur 12 vit juste au-dessus du seuil de pauvreté, Vivien M.
Ça concerne environ 8% de la population dans le Grand Est. C'est un profil un peu différent des personnes en situation de pauvreté car on retrouve plus souvent des personnes salariées, également des personnes retraitées qui touchent une faible retraite. Et c'est souvent donc finalement une pauvreté dans laquelle on est un petit peu plus installé, à l'inverse des profils plutôt jeunes où on entre dans la vie active ou bien on est encore en formation et on peut supposer qu'on sortira ensuite de cette situation de pauvreté monétaire. Un quart des personnes de moins de 30 ans est en situation de pauvreté, alors que ça concerne, pour la loi de la pauvreté, que 10% des gens qui sont moins de 30 ans. On constate également qu'il y a des profils liés à des charges familiales importantes, notamment les familles monoparentales ou les familles nombreuses qui, assez souvent, sont en situation de pauvreté. C'est par exemple 3 familles sur 10 monoparentales qui sont en deçà du seuil de pauvreté.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. En 2019, le Grand Est comptait près de 500 000 travailleurs dont les revenus provenant de l'activité professionnelle sont inférieurs au seuil de pauvreté. Au final, dans la région, 173 000 travailleurs vivent effectivement dans un ménage pauvre et sont donc considérés comme travailleurs pauvres. Ainsi, sans redistribution et sans la prise en compte des autres revenus du ménage et de sa composition, les travailleurs pauvres seraient 3 fois plus nombreux. Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, représentera le président de la République Emmanuel Macron ce jeudi aux commémorations annuelles de la mort du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Une première gerbe sera notamment déposée devant la tombe du général de Gaulle par Patricia Mirales avant qu'elle ne préside la cérémonie militaire à la Croix de Lorraine. Demain, jeudi 9 novembre, sera aussi une journée particulière pour l'éducation nationale puisque ce sera la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. De nombreuses initiatives sont prises dans l'académie pour sensibiliser les élèves à ce sujet. Des anges de René-Jules Lalique sont en cours d'installation dans l'église Saint-Nicaise de Reims. Les anges en verre moulé, un temps démontré, montés de leur baie et remplacés par des photographies numériques après avoir été dégradés, ont été restaurés par la manufacture Vincent Petit de Troyes. D'ici la fin de l'année 2023, ce sont 11 anges qui vont retrouver leur baie. Coût total de la restauration, 1,6 million d'euros. La moitié est prise en charge par l'État. 19 autres anges doivent encore être restaurés. Et pour cela, l'association des Amis de Saint-Nicaise œuvre à trouver des mécènes d'ici une deadline établie en 2025. L'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne vous donne rendez-vous dimanche dans l'amphithéâtre du lycée agricole de Rethel pour son deuxième spectacle théâtral de l'année à destination des agriculteurs, des acteurs du monde rural, mais pas que chacun puisse accéder à la culture de la même manière est essentiel et est une des actions primordiales de l'association. Odile Mouchet, la présidente de l'antenne Marne-Ardenne.
La culture, pour nous, est un moyen de réconcilier la population, cultiver également la fraternité, provoquer des moments de rencontre pour rompre l'isolement et créer du lien. Ça, c'est important.
Ce dimanche à 14h30, J'ai mangé du Jacques sera interprété par 2 comédiens, dont un bien connu puisque déjà engagé précédemment dans cette même initiative. Synopsis avec Odile Mouchet.
Nous allons retrouver Raphaël Calandreau, que nous avons fait venir il y a 2 ans, en 2021. Il est accompagné de Julio Tissier. Donc, ils vont nous interpréter cette comédie drôle et burlesque, un petit peu, qui s'appelle « J'ai mangé du Jacques ». Donc, nos artistes vont revisiter tous les grands auteurs qui se prénomment Jacques. Jacques Brel, Jacques Dutronc, Jacques Higelin, Jacques Prévert. Donc, tous ces auteurs vont être repris dans une comédie donc, qui nous entraîne dans un repas. Donc, l'idée, c'est que le rideau se lève avec deux drôles qui semblent sortir de table. Et donc, ils vont nous entraîner dans une comédie qui ressemble à un repas de famille. Voilà.
Odile Mouchet, présidente de l'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne, au micro de RCF France-Ardenne. Réservation conseillée pour faciliter l'organisation au 06 41 98 80 81. 06 41 98 80 81 ou par mail à solidaritépaysan5108@gmail.com, paysan au pluriel, solidaritépaysan5108@gmail.com, entrée 5 euros, 1 euro pour les moins de 12 ans. Du sport, du basket, le Champagne Basket s'est qualifié pour les demi-finales de la Leaders Cup Pro B hier soir en dominant de nouveau Antibes dans le match retour 89-77, une victoire qui rassure avant de retrouver le chemin du championnat samedi face à Évreux. En revanche, en volet, le CVB 52 a concédé sa première défaite de la saison hier soir. À domicile, les Chaumontais se sont inclinés 3-7 à 2 face à Nantes-Rezet. Avant de refermer ce journal, la page météo avec notre stagiaire à la rédaction, Manon Bréval. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Alors quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi Manon?
Demain matin, dans toute la Champagne, les tendances seront à la pluie. Une pluie fine et éparse. La température s'élèvera au maximum à 13 degrés et au minimum à 8 degrés. À Langres, les températures pourront descendre jusqu'à 6 degrés. Votre ressenti face aux températures sera de 8 à 10 degrés, plutôt agréable pour une journée automnale. Malgré la pluie, le vent restera modéré en soufflant entre 15 et 30 km/h toute la journée. De rares averses sont à prévoir pour ce jeudi après-midi dans les Ardennes, l'Aube et la Marne. La Haute-Marne, elle, gagnera encore le gros lot. De belles éclaircies seront attendues. Les températures s'harmoniseront sur le territoire aux alentours de 11 degrés. Demain, ce sont les Théodores qui brilleront. N'oubliez pas de leur souhaiter une bonne fête. Ce soir, de rares averses sont prévues un peu partout, mis à part la Haute-Marne qui y échappe une fois de plus. Bonne soirée Alexis, bonne soirée et merci à nos auditeurs.
Merci à toi Manon, une très bonne soirée. Tu restes avec nous jusqu'à 19h. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF. C'est Jean-Pierre Benoît aux manettes.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Voilà, le magazine régional redémarre après le journal régional qui vient d'être présenté par Alexis Claudretz. Et justement, aujourd'hui, nous allons rester à Reims. Et ce matin, nous avions comme invité en direct Marc Besancenet. Il est directeur du lycée Saint-Jean 23 de Reims. Marc Besancenet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Dans quelques jours, ce sera le 17 et 18 novembre prochain, vous organisez un forum. De quoi s'agit-il ?
Merci Jean-Pierre. Oui, effectivement, le 17 et 18 novembre, nous organisons conjointement avec les différents lycées catholiques du berceau local, lycée catholique d'enseignement. L'idée, en fait, est de faire un premier jet sur la phase d'orientation des élèves de 3e pour leur présenter effectivement les établissements catholiques de l'enseignement et du berceau local surtout.
Alors, on est en 3e. Et la seconde, c'est quand même qu'au mois de juin. Mais il faut s'y prendre maintenant, Marc Besancenet.
Alors oui, c'est primordial de s'y prendre maintenant parce que nos journées portes ouvertes dans nos différents lycées vont bientôt arriver. Pour Jean 23, c'est le 25, donc on est dans 2-3 semaines. C'est-à-dire que le jeune qui louperait le coche de la journée porte ouverte se verrait peut-être embêté pour pouvoir s'inscrire après.
Alors là, vous êtes là pour un forum qui dure 2 jours, le vendredi et le samedi 17 et 18 novembre, avec un focus pour les élèves et un focus pour les parents.
C'est ça, vraiment deux temps forts différents. Le 17 est vraiment à vocation des élèves de 3e. C'est organisé par établissement, c'est-à-dire la totalité des établissements du berceau, des collégiens du berceau vont venir en fait au lycée Jean 23. Alors, c'est pas Jean 23 tous les ans, on tourne.
En fait, cette année, c'est Jean 23, puis les 8 établissements catholiques lycées se retrouvent là pour proposer ce qu'ils vont faire.
C'est ça, à peu près les 1500 jeunes collégiens du berceau vont venir à tour de rôle.
Quand vous dites le berceau, c'est Reims, hein ?
Reims et Grand Reims.
Reims et Grand Reims.
Parce qu'effectivement, il y a aussi Rethel et Fim qui sont associés au niveau du collège. Et au niveau des établissements qui présentent leur filière, nous avons aussi associé Épernay et Chalon parce qu'ils ont des filières spécifiques et ça serait dommage que les jeunes puissent passer à côté.
Alors le vendredi 17 novembre, c'est plus précisément pour les collégiens. Et là, tous les jeunes sont invités. Les auditrices, les auditeurs, parents, enfants, ils doivent s'informer, ils doivent savoir. C'est tout le monde, hein. 1500, vous attendez 1500 ou
1500 jeunes. Collégiens.
Le vendredi.
Le vendredi, c'est exclusivement les collégiens.
Et le samedi, c'est les parents.
Oui. Alors, si vous voulez, aucun jeune collégien de l'enseignement catholique sera écarté de ce dispositif. Ils viennent tous. C'est-à-dire que la totalité, il y a une organisation, ça vient en quart. Et effectivement, il y a tour de rôle, vont pouvoir voir les 8 établissements.
C'est une grosse organisation.
Poste 3e, c'est une lourde organisation. On est dessus depuis des semaines. C'est un forum qui existe depuis des années. Hein. Nous étions à Saint-Michel l'année d'avant, à Saint-Jean-Baptiste avant. Tour de rôle, Saint-Quelqu'un nous reçoit, Saint-Joseph. La totalité des lycées rémois nous reçoit.
Et ça veut dire que le vendredi, avec les jeunes collégiens, tous les lycées de Reims, et puis les filières techniques, l'enseignement général, sont là pour montrer aux jeunes, puis montrer aux parents le lendemain ce qu'ils proposent.
Oui, alors c'est pas un forum d'orientation. C'est vraiment la première marche, la première pierre, si vous voulez, au niveau du cursus d'orientation qui doit être intégré dans la troisième. Ce n'est pas un forum d'orientation, mais c'est vraiment un forum pour montrer la totalité des établissements de l'enseignement catholique.
C'est un premier coup de projecteur.
C'est ce qui est complètement ça. En fait, il serait dommage, voire stupide de notre part, que des jeunes passe à côté d'une solution d'enseignement catholique sans, par méconnaissance. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment leur montrer. C'est aussi présenter le charisme de nos établissements. Nous avons des différences dans les lycées généraux de Reims, les 5 établissements. Nous avons chacun un charisme et un mode de fonctionnement différent. Et il est important que les jeunes s'en saisissent.
Jean 23, Pensionnat du Sacré-Cœur, on peut les énumérer.
Saint-Joseph, Saint-Michel, le groupe de la salle.
Le groupe de la salle voilà, avec Saint-Jean-Baptiste de la salle.
Ce sont les 5 lycées d'enseignement général sur Reims.
Donc ça représente du monde.
1500 jeunes. Et le samedi, là, on fait c'est un peu différent.
Alors, c'est les parents.
Voilà, les parents et toute personne qui aurait envie de venir découvrir nos établissements sont les bienvenus.
Alors vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous voulez vous informer, c'est ouvert à tout le monde là, le samedi. C'est toute la journée de
9h
à 9h à midi. Non, c'est le matin, d'accord.
C'est ça, c'est que le
de
matin.
De 9h à midi.
De 9h à midi, la totalité de Reims et voilà, de partout, vous êtes les bienvenus effectivement pour venir découvrir nos établissements.
Puisqu'il nous reste quelques minutes, on y reviendra hein, sur ce forum des 17 et 18 novembre, vendredi 17, samedi 18, 17 les collégiens, 18 novembre les parents. Vous avez aussi tout prochainement une remise de diplôme aussi à Jean 23.
Ah oui, Jean 23, ça continue à bouger. On fait la remise de diplôme ce prochain samedi. On fait une grande messe effectivement pour montrer.
Et c'est important ça de remettre les diplômes. Moi je trouve ça que c'était un peu abandonné, maintenant ça revient. Hein.
Alors nous avons malheureusement le Covid, l'effet Covid, on en parle souvent, mais malheureusement l'effet Covid fait que nous n'avons pas pu le remettre en place les années précédentes. Cette année, les conditions le permettaient, nous remettons en place cette remise de diplôme avec un taux de retour qui est énorme. On a 175 jeunes récipiendaires qui seront présents sur les 200 jeunes qui ont eu leur bac l'an dernier. C'est énorme.
C'est vraiment formidable. Et puis vous avez votre journée porte ouverte, ça c'est autre chose, le 25 novembre, c'est-à-dire 8 jours après, le 25 novembre.
Oui, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Effectivement.
Mais vous n'arrêtez pas, dites-nous.
Jean 23, ça n'arrête jamais. Aimer la vie et lui donner un sens, vous savez. Donc le 25, effectivement, nous serons en journée porte ouverte, l'après-midi, où là nous accueillerons toutes les familles. Alors une grande partie des familles qui seront venues d'ailleurs le 17 et 18 seront présents le 25. Je vous invite expressément à venir à la journée porte ouverte. C'est ce jour-là où nous lançons les inscriptions pour s'inscrire en seconde l'an prochain à Jean 23. Les inscriptions à Jean 23, ça va très 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 vite. Très très vite, ne loupez pas le coche de la journée porte ouverte.
Fichon. Journée porte ouverte, 25 novembre. Ouvrir des espaces, ouvrir des horizons, mais aussi gravir des montagnes, Marc Besancenet, parce que l'opération Kilimandjaro... Vous pouvez nous en dire un mot, on en avait déjà parlé avec vous, c'est-à-dire qu'en juillet 2024, vous emmenez une personne handicapée qui n'a plus de jambe, enfin qui est très handicapée, qui a une jambe, et qui va être accompagnée par des jeunes. C'est une opération exceptionnelle.
Oui, Kilimanjaro.
Montez au Kilimanjaro.
Montez le Kilimanjaro.
Ça me fait rêver, moi. Je pensais à la vallée de la Meuse, monter du côté d'Arny ou de Butée, mais là, le Kilimanjaro, là, on est scotché, là.
Entre Monthermé et le Kilimanjaro, il y a effectivement un gap, mais...
Ouais. mais 5900 mètres.
5900 mètres, effectivement. Donc, nous allons amener cette jeune en situation de handicap, qui est unijambiste, tout en haut du Kilimanjaro, en juillet. L'idée, c'est simplement montrer que tout est possible. Et le slogan, c'est « On a tous une montagne à gravir et on s'y reconnaît tous ».
Et pendant l'année, justement, les montagnes, c'est aussi des petites collines à gravir, parce que pour arriver au sommet, et parmi ces collines, il y a les forums, il y a les orientations, et puis il y a l'esprit d'équipe qui se...
Il y a des marches solidaires, il y a une première marche solidaire qui
va se
mettre en
place. Alors, vous êtes en lien aussi avec Thomas Pesquet, parce que c'est une opération qui va être couverte nationalement. Hein.
C'est une opération qui va être couverte nationalement. France 3 va nous suivre. France 2 est actuellement...
J'ai aussi vu RTL, enfin...
Il y a RTL, il y a Parisien. France Bleu, il y a Le Parisien, effectivement, voilà, c'est vrai que ça va... Aucun établissement en France n'est allé aussi haut pour mettre en avant l'handicap. Ça, c'est
jamais
fait.
On était fiers, nous, parce que, vas-y, à la suite de notre petite interview que nous avons fait il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'est ça, mais Le Parisien vous a appelé. Ils n'ont peut-être pas su par ça, mais ils avaient dit par notre émission.
Jean-Pierre, clairement, c'est grâce à RCF que effectivement, entre autres, Le Parisien ou France 3 a pu effectivement nous connaître et passer grâce à vous.
Marc Besancenet, il nous reste 30 secondes. Forum. 17 et 18 novembre, vendredi 17, c'est pour les collégiens, 18, c'est pour les parents ou les grands-parents des collégiens, 8 établissements, c'est à Champ 23, toute la journée, le vendredi, la matinée du samedi.
Oui.
Alors c'est un beau programme.
Merci beaucoup et regardez bien les dates des différentes journées portes ouvertes de tous les établissements de l'enseignement catholique sur Reims.
Merci Marc Besancenet, directeur du lycée Saint-Jean 23, d'avoir été avec nous.
Le 18-19 sur RCF.
Aujourd'hui, nous allons évoquer un livre qui vient de paraître aux éditions MAM, qui a pour titre « Sainte Hildegarde de Bingen, génie du Moyen-Âge », un livre écrit par Emmanuel Filippona et le père Pierre Dumoulin. Ils sont tous les deux avec nous aujourd'hui. Emmanuel Filippona, bonjour.
Bonjour. Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Père Pierre Dumoulin, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous tous les deux. C'est quand même intéressant de savoir qui vous êtes. Évidemment, bon nombre d'auditeurs de RCF vous connaissent peut-être. Le père Pierre Dumoulin de Marseille. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nous?
Oui, je suis prêtre du diocèse de Marseille. Je suis curé d'une paroisse, Sainte-Rita, qui est aussi un sanctuaire ici à Marseille. Et j'enseigne dans tous les séminaires et instituts de la région. Je suis bibliste de formation. Après avoir passé plus de 20 ans dans les pays de l'ancienne URSS, principalement le Kazakhstan, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, à la fois comme enseignant et puis fondateur de séminaires ou d'universités aussi.
À vos côtés, à distance, Emmanuel Filippona. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu?
Alors, moi, je suis naturopathe chrétienne, je suis basée à Reims et je suis spécialiste de la thérapie de Sainte-Hildegarde depuis 20 ans maintenant et présidente d'une association qui est aussi basée à Reims, tout près de RCF Reims, qui s'appelle la Maison de Sainte-Hildegarde, qui a pour but de faire connaître les enseignements thérapeutiques et spirituels de Sainte-Hildegarde par différents moyens. On aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler. Et par le biais de l'association, les éditions MAN nous ont contactés pour écrire un beau livre. Ils l'appellent le beau livre sur Sainte-Hildegarde. Et quand ils nous ont contactés, on a naturellement pensé au Père Dumoulin pour écrire ce beau livre.
Évidemment, l'une et l'autre, vous connaissez parfaitement la vie de Sainte-Hildegarde de Bingen, qui est finalement, et on peut le dire en 2023, d'actualité. On va revoir son itinéraire et ça va certainement interpeller bon nombre d'auditrices et d'auditeurs, à la fois l'écologie, la musique, on va voir tout cela. Est-ce que vous pouvez, Père Pierre Dumoulin, nous présenter assez rapidement cette vie exceptionnelle de Sainte-Hildegarde de Bingen?
Oui, Sainte-Hildegarde, c'est une femme du XIIe siècle. Et avant la construction des grandes cathédrales gothiques de France, on est avant François d'Assise, avant Saint-Dominique, on est à la même époque que Saint-Bernard, on est en pleine époque romane, l'apogée du roman. Et c'est dans cette période-là, qui est aussi une période où commencent les croisades, entre autres, hein, que va vivre Sainte-Hildegarde. Alors, elle naît donc en 1098, elle décédera en 1179, à 81 ans, presque 82, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Et cette femme, toute petite, va être mise dans un monastère. Elle va partager la vie démoniale Elle a de la chance, la supérieure du monastère est une sainte, et à 38 ans, elle va remplacer la supérieure, donc c'est une mère abbesse. Mais une mère abbesse exceptionnelle, parce que depuis qu'elle est toute petite, elle a des visions. Et au bout d'un moment, ces visions vont lui dire, maintenant il faut que tu écrives ce que tu vois. Alors à 43 ans, elle va se mettre à écrire ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, et ça va nous donner trois magnifiques livres de visions, donc le Sivillas, hein, « Connaît les voies du Seigneur », puis ensuite l'Ordo Virtutum, l'ordre des vertus, et puis ensuite le chef-d'œuvre, on pourrait dire, d'Hildegard, qui est le livre des œuvres divines. Mais non seulement elle écrit ça, mais en même temps, elle écrit de la musique, puisqu'elle entend de la musique, donc elle la met par écrit, de la musique qui s'apparente au grégorien, on y reviendra. Et puis, en même temps, c'est une femme, c'est une maîtresse femme, hein, donc elle connaît bien les plantes et d'autres choses, donc elle va nous laisser des livres de pharmacopée. Et en même temps, cette femme va être aussi une mère abbesse remarquable qui va fonder deux monastères, l'un qui s'appellera le Rupertsberg et l'autre qui est le monastère de Eibingen, ce qui en a fait Sainte-Hildegarde de Bingen.
C'est quand on dit Sainte-Hildegarde, ça veut dire qu'elle a été donc canonisée, et puis le pape Benoît XVI a tenu quand même à lui donner une place particulière dans l'Église.
Oui, alors le pape Benoît XVI, assez récemment, donc en 2012, va s'apercevoir qu'elle n'a jamais été canonisée vraiment. Il va étendre le culte local d'Hildegarde et en faire une sainte pour l'Église universelle. Hein, parce qu'il y avait un culte qui s'est propagé tout le temps. Il n'y a jamais eu de procès de canonisation, comme pour pas mal de saints d'ailleurs. Hein. Et surtout, il va en faire un docteur de l'Église. C'est le côté exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a que quatre femmes qui sont docteurs de l'Église. Ces quatre femmes sont Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la plus récente, disons, hein. C'est sainte Thérèse d'Avila et c'est sainte Catherine de Sienne, avec Hildegarde de Bingen, la dernière en date, mais la plus ancienne, au point de vue de sa vie.
On parle aujourd'hui, en 2023, c'est un très beau livre, je le dis, pour les fêtes de Noël. C'est un livre d'art, on a des enluminures, on va en parler, il y a de la musique à l'intérieur, il y a de la poésie, il y a la Bible. Et à toutes celles et tous ceux qui cherchent un sens, il y a une forme d'unité dans ce que dit Sainte Hildegarde. Alors justement, Emmanuel Philippona, qu'est-ce qui vous a touché dans cette vie de Hildegarde pour qu'un jour vous soyez quand même attaché à son parcours et à ce qu'elle nous dit?
Alors personnellement, dès le début, j'étais touchée par son côté audacieux. Elle a une personnalité très audacieuse. Elle n'hésitait pas et elle n'a pas hésité à dénoncer publiquement les abus du clergé qui venaient entacher la réputation de l'Église, cette Église qu'elle aime et qu'elle veut défendre absolument. Et puis aussi, cette audace, elle l'a manifestée en réprimandant les puissants politiques de son époque, comme l'empereur Barberousse, qui était à l'origine d'un schisme qui opposait trois antipapes au pape légitime. Et pour porter cette voix audacieuse au-delà de sa région, elle n'a pas hésité, de l'âge de 60 à 72 ans quand même, à cette époque, de partir en mission. C'était une femme missionnaire. Et elle parcourait le Rhin, elle s'arrêtait d'abbaye en abbaye pour prêcher justement la parole du Seigneur et puis essayer de faire que le clergé et puis les chrétiens reviennent de tout leur cœur dans la pénitence, dans l'amour vers le Seigneur. C'est ça qui m'a particulièrement touchée dans la vie de Sainte-Hildegarde, ce côté audacieux et missionnaire. Bien sûr, les plantes et puis sa thérapie m'ont intéressée, donc on y reviendra plus tard. Mais c'est sa personnalité extraordinaire qui me touche au plus profond.
Et qui parle avec les mots d'aujourd'hui, et comme le disait dans sa préface, enfin le père Pierre Dumoulin, il faut parler de façon simple, et le parcours n'est pas facile sur le plan biblique, il faut des traductions, c'est pas toujours évident. Mais vous l'avez rendu accessible, un livre d'art, plein de poésie. On lui dit, pour les gens du Salon du Livre de Dijon, ça va être quand même une belle rencontre que vous allez faire.
C'est la demande des éditions MAM, de faire un livre grand public, accessible pour tous et un beau livre.
Père Pierre Dumoulin, vous qui êtes à Marseille et qui connaissez bien ce parcours d'Hildegarde, vous avez tout à l'heure évoqué des visions. Et puis aussi, dans le livre, on voit de très très belles enluminures. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
À la demande des éditions, c'est ça que j'ai fait comme travail, ça a été de commenter les enluminures. Parce que bon, les visions ne sont pas faciles toujours à comprendre, à lire, mais on a la chance qu'au moins pour deux des livres, il y a eu des enluminures qui ont été faites très rapidement. Peut-être même sous la guidance d'Hildegarde. Et ces enluminures, donc, qui datent du XIIe, sont plus faciles à comprendre que le texte lui-même. C'est grâce aux enluminures souvent qu'on comprend le texte. Et elles sont sublime. En particulier, toutes les enluminures du livre des œuvres divines, la dizaine d'enluminures, irait du Léonard de Vinci par certains côtés, quoi, en particulier la vision de l'homme au milieu de l'univers, c'est tout à fait l'homme de Vitruve chez Léonard de Vinci. Ces très très belles enluminures, colorées sur fond doré, on en a des bonnes reproductions ici dans ce livre. C'est la première fois que ça paraît en français, avec le commentaire et avec les pleines pages avec ces enluminures. C'est un des grands intérêts du livre, c'est d'offrir enfin au public ces magnifiques représentations.
Aujourd'hui, on parle beaucoup écologie, on va parler des plantes dans un instant avec Emmanuel Filippona, mais il y a la création dans sa totalité, une certaine forme d'unité. On parle beaucoup aussi de Laudato Si. Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre Laudato Si et Hildegarde ?
Ah oui, il y a absolument fantastique, au point que j'ai eu la chance de rencontrer quelquefois le pape François, et je lui ai dit carrément, Très Saint-Père, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cité Saint-Hildegarde dans Laudato Si, quoi ? C'est évident, il y a des textes où on croirait entendre le pape. Je me permets de lire quelques lignes. Elle dit « Les éléments sont souillés par la fumée coupable des ignobles turpitudes des hommes, parce qu'ils sont en contact avec l'impureté des hommes. Les hommes vivent dans les éléments et eux vivent avec les hommes. Et Dieu dit « Je vous nettoierai avec mes balais, je punirai les pollueurs. » Voilà, je punirai les pollueurs, hein, dit Dieu dans les textes d'Hildegarde. Et puis il explique que tous les maux qui viennent, ça vient du fait que l'air vomit des saletés à cause des innombrables impuretés des hommes. Elle conclut en disant « C'est à cause des hommes qui ne visent dans leurs actes que leur plaisir et leur désir. Ben, » c'est l'avidité humaine qui produit la pollution. C'est dit 8 siècles avant.
Absolument.
Et c'est exactement la leçon que le pape François tire dans Laudato Si en disant « Le problème, il est chez vous. »
Est-ce que le pape François, père Dumoulin, vous a fait la promesse d'évoquer un jour Hildegarde ?
Non, il m'a pas fait la promesse, mais je lui ai offert un de mes livres sur Hildegarde en lui disant « Saint-Père, il faut lire ça, quoi. C'est quelque chose d'essentiel pour le monde d'aujourd'hui. » Si le pape Benoît l'a faite docteur de l'Église, c'est bien parce qu'elle a un message qui nous concerne, qui nous touche. C'est vraiment écrit pour nous.
Parmi les passions et l'investissement d'Hildegarde, il y a la thérapie et l'alimentation. Alors, elles reviennent aujourd'hui en force, Emmanuel Filippona, et ça vous tient particulièrement à cœur.
Oui, parce que je suis naturopathe chrétienne, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. Et si elle revient en force, c'est parce que, je crois, comme l'a dit le père Pierre Dumoulin, nous avons aujourd'hui ce devoir, ce besoin de nous reconnecter ou de retourner vers la nature. Et Hildegarde nous propose une alimentation qui est saine, une alimentation qui est simple et qui peut aussi être gourmande, une alimentation où l'aliment déjà est en soi un remède sans effet secondaire. Et cette alimentation et ces remèdes naturels sont principalement à base de plantes, bien sûr, et aussi à partir d'épices, des remèdes qui sont peu chers hein, et dont l'efficacité est aujourd'hui prouvée par la phytothérapie moderne. Donc ça a son intérêt pour que ça revienne en force aujourd'hui. Et puis, Saint-Hildegarde nous propose aussi une thérapie qui est basée sur l'homme tout entier, sur la globalité de l'homme, sur l'homme dans ce qu'il a de plus beau, c'est-à-dire une entité corps, âme et esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner la place à l'esprit, à la relation de l'homme avec Dieu. Et c'est ce que nous offre Hildegarde et c'est merveilleux de travailler avec elle et pour elle, pour le Seigneur.
On va se retrouver, Emmanuel Filippona et père Dumoulin, surtout au Salon du Livre de Dijon, et on se retrouvera ici à Reims, comme à Marseille. Vous aimez bien sûr la musique, parce qu'elle est musicienne, Hildegarde de Bingen. Tout en nous quittant, je vous propose d'entendre une antienne au Clarissima, au Caritas, qui est d'ailleurs très facilement écoutable, puisque dans ce livre, il y a un QR code, et on peut écouter la musique.
Oui, tout à fait. Ce qui est très beau dans cette musique, hein, c'est qu'on a à la fois quelque chose qui évoque le grégorien, c'est une musique qui fait du bien, c'est une musique qui donne de la paix. Voilà. Hein. Et on a voulu qu'il y ait tous les sens qui soient mis en jeu, c'est-à-dire à la fois la vision à travers les enluminures, mais aussi les oreilles à travers la musique d'Hildegarde. Mmh.
Merci à Emmanuel Philipponin, merci au père Pierre Dumoulin, saint Hildegarde de Bingen, génie du Moyen-Âge aux éditions MAM. On se nourrit dans ce livre, Emmanuel Philipponin. Oui. Presque comme
de la beauté,
oui. Et de la création, de la musique, des enluminures. Vos explications, merci père Pierre Dumoulin. Si vous l'acceptez, on fera une émission peut-être un peu plus longue un autre jour avec vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous tous. Et puis à tous les éditeurs, on souhaite bien du plaisir avec ce très beau livre.
Un livre qu'on peut offrir, bien sûr, à l'occasion des fêtes de Noël, qu'on peut trouver dans les bonnes librairies, et puis qu'on peut retrouver à Dijon, à Marseille, à Reims, partout. Saint-Hildegarde, elle est universelle. Merci d'avoir été avec
nous. Merci, Jean-Pierre.
Et à très bientôt sur RCF. On vous souhaite une très très bonne soirée. Dans un instant, le journal national de RCF. Et à très bientôt. Au revoir.